cazzo si ben cazzo. Sino...
Bienvenue à tous sur votre émission hebdomadaire sur la Voix de l'Amérique. Une vingtaine de minutes pour passer au crible la suite du sport de la semaine. Élisée Rumpati en direct avec vous et pour m'accompagner, comme d'habitude dans ce studio, Lawal Dinkosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, on retrouve Amine Birouk à Casablanca, au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Ce soir, nous allons parler des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Et puis, élection à la CAF. Les candidats sont désormais connus. Bonsoir et bienvenue sur Sporama. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022 ont repris après une année d'interruption à cause de la pandémie du Covid-19 avec les 3e et 4e journées. Deux journées en une semaine qui ont permis au Sénégal de valider déjà son billet pour la phase finale. Amédine Sy, ça a été plus facile qu'on le pensait.
Tout à fait, Élisée, mission accomplie pour le Sénégal qui a composté son ticket pour la CAN 2022, mais ce n'est pas si facile qu'on le pensait, hein, puisque les Lions se sont imposés que sur la marque 2-0 devant les Turcs grâce à un but de Sadio Mané. Le Sénégal, qui est leader du groupe I, a fait le carton plein, hein, avec 4 matchs, 4 victoires. Le Sénégal a réussi à marquer 9 buts et n'a encaissé qu'un seul but. Pour revenir à Sadio Mané, qui a été l'unique buteur de cette rencontre, il égale le record de cette El Hadj Diouf en inscrivant 21 buts pour le compte de l'équipe nationale du Sénégal. Il avait déjà battu quand même le record d'un certain Jules François Bokandé à Thiès. Il faut dire que Élisée, c'est la 16e qualification du Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal, depuis 2000, n'a raté que 2 Coupes d'Afrique. C'était en 2010 et en 2013. Il faut dire également qu'Aliou Cissé a réussi quelque chose de très grand, puisqu'il n'a pas encore concédé de défaite en éliminatoire et on attend le Sénégal pour la prochaine CAN Élysée.
De son côté, le Maroc a largement battu la Centrafrique à Casablanca sur la marque de 4-1. Un bon résultat pour la suite, selon Vahid Halilhodžić, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.
Un petit peu déstabilisé, mais on s'est repris très très rapidement et cette victoire-là, c'est tout à fait mérité pour mon équipe. Je félicite aux joueurs. Bah, il faut chercher encore une victoire qui nous donne possibilité de terminer premier et qualifier pour le prochain camp. C'est un objectif qu'il faut atteindre le plus rapidement possible.
Amine Birouk, une victoire logique pour les Lions.
Une victoire conforme à la logique, vu les forces en présence, vu aussi le rayonnement de Achraf Hakimi et de Hakim Ziyech. Le premier inscrit le premier but du Maroc. Le joueur de Chelsea a été l'homme du match. Il a donné 2 passes décisives, inscrit 2 buts, était largement l'homme de la situation. Les individualités marocaines sont en train de se transformer petit à petit en un groupe solide, solidaire. Un peu la marque de Vahid Halilhodžić, qui a toujours prôné les vertus du collectif. Maintenant, le match retour sera bien différent. On verra certainement une équipe d'Afrique centrale revancharde. On disputera la rencontre dans un terrain totalement, dans un contexte totalement différent, puisque le match aura lieu à Douala au Cameroun. Il est vrai que ce sera sur un billard, mais les conditions climatiques ne seront pas les mêmes. En tout cas, le Maroc est en ballotage favorable et une victoire mardi à Douala serait synonyme de qualification pour la CAN au Cameroun.
Dans ce groupe E, rien ne va pour la Mauritanie. Accroché à l'aller par le Burundi, les Morabitounes ont cédé à Bujumbura 3-1 pour être retrogradés à la 3e place. Alors, Valdo, la RDC n'y arrive toujours pas. 3 points en 3 matchs face à l'Angola, malgré la présence du président de la République, ça ne passe toujours pas.
Élisée, la RDC n'y arrive toujours pas, quel que soit l'adversaire en face, et ce, malgré la présence du président Tshisekedi lors de ses face-à-face contre l'Angola au stade des Martyrs. L'Angola qui enregistre son premier point dans ses éliminatoires avec ses nuls blancs et les Léopards rate l'occasion de chipper à la Gambie la deuxième place du groupe D après sa défaite contre le Gabon. Ça fait un total de 7 matchs sans victoire. S'il ne faut prendre en compte que ces éliminatoires, c'est donc un troisième match nul enregistré, le deuxième nul blanc à Kinshasa au stade des Martyrs, celui-ci semble être du trop. Mathématiquement, si l'écart entre l'Angola et la RDC est maintenu à deux longueurs, la RDC, elle, a quand même réduit sa distance avec la Gambie qui est passée de 2 à 1 au clôture de cette troisième journée. Seul le Gabon a pris les larges avec 7 points. La course à la qualification reste tout de même encore ouverte à tous.
Lawal. Dans le groupe L, le Bénin a fait l'essentiel devant le Lesotho grâce à Jodel Dossou. Michel Dussué, le sélectionneur des écureuils, nous fait ça l'étude du jeu.
On a fait une bonne entame de match, on a déployé un peu de jeu, on s'est créé des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Il a fallu un exploit de Jodel pour nous faire passer devant. Après, sur la globalité du match, on a peu été mis en danger. On n'a pas suffisamment été dangereux en seconde mi-temps. On a eu beaucoup de déchets techniques. Mais il y avait aussi physiquement où on a souffert. Je pense que les deux équipes aussi ont souffert.
Les écureuils ont assuré, surtout après le faux pas du Nigeria à domicile contre la Sierra Leone.
Oui, Élisée, on attendait des écureuils qu'ils assurent l'essentiel, ce qu'ils ont réussi à faire. Et il faut reconnaître que ça n'a pas été facile pour eux. Mais à l'arrivée, les trois points sont empochés, consolides. Ainsi, leur deuxième place dans ce groupe, elle, où le Nigeria surprit tout le monde en se faisant rattraper par la Sierra Leone, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Maintenant, les regards sont désormais tournés vers les matchs de demain.
Massérou.
Oui, pour voir un peu comment les deux équipes...
Une victoire, on pourra qualifier complètement le Bénin en cas de victoire aussi du Nigeria.
Du côté de la Sierra Leone. Voilà. Il faut espérer que les Béninois assurent également l'essentiel du côté du Lesotho et que les Nigériens puissent enlever tout espoir de qualification pour la Sierra Leone, parce qu'une victoire Sierra Leonaise va relancer carrément tout le groupe et ça va compliquer peut-être les choses pour les matchs qui attendent les écureuils, parce que là...
La cinquième journée, le Bénin joue à domicile contre le Nigeria.
Voilà, et ça va être assez compliqué pour le Bénin. Donc, espérons, il faut que les Béninois espèrent que le Nigeria l'emporte du côté de la Sierra Leone pour qu'il puisse avoir l'esprit un peu tranquille.
À Freetown, pour être précis... La Guinée a raté l'occasion de prendre seule la tête du groupe A en attendant le match du Mali, puisque accroché 1-1 au Tchad.
Oui, on attendait donc une Guinée qui allait assurer l'essentiel, mais les dieux du foot n'étaient peut-être pas avec eux. Et les Tchadiens ont montré qu'ils ont encore leur mot à dire dans ce groupe-là. Et donc toutes les cartes vont être rebattues et la dernière journée va être...
Surtout si la Namibie arrivait à battre le Mali, ça va être compliqué davantage.
Ce qui n'est peut-être pas évident parce que le Mali est en train de monter en puissance également, il faut le dire. Mais au niveau du foot, on ne sait jamais ce qui pourra se passer. Attendons le match pour pouvoir mieux se prononcer sur cette actualité.
Amédine, après s'être relancée, la Côte d'Ivoire doit enchaîner à Madagascar dans un groupe K qui a vu le Niger marquer ses premiers points.
Tout à fait, Élisée, la Côte d'Ivoire qui s'est relancée à la course pour la qualification de la CAN 2022 après sa victoire 2-1 face au Madagascar doit enchaîner ce mardi à Antananarivo. Mais ce ne sera pas facile pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui auront en face d'une redoutable formation malgache qui fera tout pour conserver son fauteuil de leader. D'ailleurs, les deux équipes comptent le même nombre de points, 6, mais les Baréas sont devant grâce à une meilleure goal différence, plus 4 contre plus 1 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il faut dire, Élisée, que ce sera un match extrêmement difficile car c'est un duel entre les deux leaders du groupe de K. Élisée, un match qui s'annonce difficile pour les deux formations. Élisée.
Amine, la Tunisie doit mieux faire qu'à l'aller contre la Tanzanie afin d'assurer sa qualification pendant que l'Égypte jouera sa suivie au Togo.
Certes, la Tunisie doit faire mieux qu'au match aller contre la Tanzanie, mais la Tunisie a assuré l'essentiel, c'est-à-dire une victoire à Hadès, même par la plus petite démarche, grâce à un pénalty inscrit par Youssef Msakni à la 18e minute. Et l'équipe tunisienne a, pour l'instant, réalisé un sans faute dans son groupe, 9 points sur 9 possibles. tout le contraire, par exemple, de la Libye, qui est en ballottage défavorable dans ce groupe. Et l'Égypte s'est ressaisie face au Togo. Elle jouera certainement sa survie au Togo, mais la victoire acquise de haute lutte sur le score d'un but à zéro est une vraie bouffée d'oxygène pour la sélection égyptienne. Les pharaons doivent maintenant jouer en mode commando à Lomé pour pouvoir sortir vivant de leur groupe.
Valdo, on peut dire que la CAF a bien géré ces deux journées avec des protocoles bien définis.
Et oui, Élisée, il fallait bien reprendre avec ces éliminatoires, surtout après les temps donnés par la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, sans oublier les matchs amicaux. Ça valait donc la peine de poursuivre avec les éliminatoires de la CAF 2022 et défier ainsi cette pandémie qui a déjà remporté la bataille des spectateurs dans différents stades. Et là, elle continue à nous rappeler sa présence de temps en temps avec des cas ça et là. Et face à celle-ci, la CAF a finalement pris des mesures allant dans le sens des départs reporter des matchs comme lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. Heureusement que jusqu'au terme de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN, les choses se passent plutôt bien. Et en tout cas, le souhait est qu'il en soit de même au terme de la quatrième journée et permettre à la CAF de se projeter sur les deux dernières journées de ces éliminatoires.
Écoutez Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis sur la Voix de l'Amérique à partir de 19h temps universel. On connaît désormais les candidats au poste du président de la CAF. Ils sont 5 désormais sur la ligne de départ en attendant que la FIFA ne fisse le sortant sur son sort. Après le président sortant, le Magache Ahmad Ahmad, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahia, c'est finalement le Sénégalais Augustin Senghor qui a complété cette liste à la lisière de la clôture des candidatures. Ahmedine Sy, c'était prévisible. C'est désormais officiel. Le Sénégal se mêle à la danse.
Tout à fait, Élisée, c'est maintenant officiel. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football au cours de point de presse qui s'est tenu ce lundi au chef de la Fédération sénégalaise de football. Il faut dire, Élisée, que le patron du football sénégalais a attendu quand même la dernière minute pour se prononcer officiellement sa candidature. Il a dit qu'il ne voulait pas quand même gêner les Lions du Sénégal. C'est pourquoi il a attendu la double confrontation Sénégal-Bissau pour se prononcer officiellement. Mais comme vous le savez, Élisée, beaucoup d'observateurs avertis pensent que la candidature du président Senghor est un plan B de Ahmad Ahmad. Comme vous le savez aussi, il y a une épée de Damoclès qui plane sur la tête de Ahmad Ahmad. Donc c'est pourquoi il a déposé sa candidature, puisque Augustin Senghor disait qu'il ne sera jamais candidat. Si Ahmad Ahmad est candidat, il ne le fera que par loyauté. Donc pourquoi il a changé d'avis, wait and see, comme disent les Anglais, il disait.
Amine Birouko, cette candidature devrait pallier à toute éventualité en cas d'empêchement d'Ahmad Ahmad par le comité d'éthique de la FIFA.
Il y a deux facteurs. Le premier, c'est certainement la possibilité de voir Ahmed Ahmed empêché de se représenter. Et donc, c'est un contexte d'opportunité. On ne va pas taxer ces candidats d'opportunisme, mais ils représentent le recours francophone en cas d'absence d'Ahmed Ahmed dans ce scrutin. Et puis, ils ont certainement des idées, des projets. Nous avons essayé de sonder un peu les différents camps et tous plaident pour une réforme structurelle du football africain, de sa gouvernance, de mettre un peu plus de moyens et d'infrastructures, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Ce sont des idées, des concepts. Maintenant, il va falloir attendre la date butoir du 12 janvier pour voir toutes ces candidatures, surtout si elles vont être validées, s'il n'y aura pas de désistement d'un camp ou d'un autre candidat. Ce qui est certain, c'est que le camp francophone se divise ou se présente en rang divisé, en rang dispersé, et cela pourrait faire l'affaire du clan anglophone au sein de cette Confédération africaine de football.
Valdo, finalement, Constant Oumari ne sera pas le plan B de la CAF.
Élisée, il ne laissera pas qu'il se contente de ces 20 jours d'intérim à l'absence d'Ahmad Ahmad pour jouir un peu de la saveur de ses postes de président de la CAF. Peut-être que ça pourra lui donner des idées prochainement. Pour l'instant, Omar, il y a un candidat qu'il soutient, c'est le président sortant, comme dans ses habitudes. Il reste loyal au système en place. Mais attention, cette fois, ça s'annonce très rude et compétitive avec autant de candidats qui se sont prononcés pour prétendre à ces postes. Pendant la campagne, ça risque d'être compliqué pour les candidats du premier vice-président de la CAF, dont la gestion semble ne pas avoir des arguments solides à faire valoir, une faiblesse que vont naturellement utiliser ses concurrents pour diminuer ses chances durant la période des campagnes. Constant Marie a toujours été sage dans la prise des décisions, même si pour la plupart, ils ont donné leur approbation pour soutenir Ahmad Ahmad, mais rien n'est encore acquis pour les Malgaches. Contre toute attente, il peut se retrouver out malgré les garanties qu'il a obtenues des associations membres. Voilà ce qui donne à ces élections une saveur particulière.
Lawal, Jacques Hanouma a été le premier à annoncer sa candidature après Ahmad Ahmad, de qui il était pourtant très proche. C'est une candidature qui passe mal aux yeux des partisans du président sortant qui n'hésitent alors pas à crier à la trahison.
Non, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourra parler de trahison de Jacques Hanouma, bien qu'il soit assez proche d'Ahmad Ahmad. La situation est assez confuse et on est dans un attentisme qui ne dit pas son nom. Jacques Hanouma veut au moins, sa candidature permettra certainement de sécuriser certains acquis. Parce que là, s'il n'était pas candidat, s'il ne supportait pas candidat et que Ahmad Ahmad était empêché d'être candidat, ça veut dire que ce qui est en train d'être fait va carrément échapper à tout le monde. Et il fallait un plan B. Et je pourrais dire que Jacques Hanouma serait peut-être le plan B.
On parle de favori. Aujourd'hui, on voit Patrice Motsepe, favori. Mais quand on voit un peu comment Hanouma a réuni ses parrainages, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Kenya, qui est un pays anglophone, tout porte à croire que Hanouma se met aussi dans la peau d'un favori.
Non, vous parlez du Sud-Africain. Il n'est pas président de fédération. Il n'est que président de club. Et il y a déjà ce handicap-là qui pourrait lui créer des dommages. Et quand on voit un peu le parrainage du Kenya, qui est très proche de l'Afrique du Sud et qui est très proche d'Ahmad aussi, on voit la lecture que je fais, je peux me tromper, qu'il y a comme un souci de sauvegarder les acquis d'Ahmad Ahmad. Et le seul en mesure de les sauvegarder, c'est donc Jacques Hanouma, qui était proche de Ahmad Ahmad, mais qui
un véritable ancien de la maison en plus.
Et si éventuellement, à 76 ans, je crois, si éventuellement Ahmad Ahmad était empêché d'être candidat, là, la voie pourra être libre pour Jacques Hanouma. Donc il fallait sécuriser les acquis, c'est ce que semble dire cette candidature. Et regardez un peu ce parrainage. Trois pays francophones tout de suite, dont la Côte d'Ivoire et un pays anglophone. Et ce n'est pas fini. On a les prochains.
Il a dit qu'il va convaincre autant de pays à le supporter. Et on voit clairement pourquoi la candidature d'Augustin Senghor. C'est pour un peu brouiller les pistes et partager les voix de l'Afrique de l'Ouest avec lui.
Non, Augustin Senghor, c'est son droit le plus absolu d'être candidat. Et vous allez voir que avant mars 2021, on va assister à des jeux d'alliances. Il y aura des alliances forcément. Il y aura des candidats qui vont carrément se désister en faveur d'autres candidats et demander à ce qu'on les soutienne. On a trois candidatures au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors que l'Afrique de l'Ouest est la zone pourvoyeuse de beaucoup de suffrages. Donc, le fait d'avoir ces trois candidatures, ça peut-être effriter les voix. Mais à un moment donné, les gens finiront certainement par trouver l'alchimie, par trouver le consensus autour d'un candidat de l'Afrique de l'Ouest pour que la bataille puisse être assez plus facile à mener que d'éparpiller les voix de cette façon.
Justement, outre l'Afrique de l'Ouest, il peut avoir aussi des alliances comme cette union sacrée en 2017 autour de Ahmad contre Issa Hayatou.
Oui, Élisée, il faut dire, pour l'élection, on n'ira pas à cette élection avec les cinq candidats. Je présume on n'ira pas à cette élection avec les cinq candidats. Les alliances s'imposent. Et si on veut faire les choses comme il se doit, on doit avoir forcément certaines alliances. C'est vrai que les pays anglophones vont chercher à s'entendre entre eux, mais quand on fait le point entre anglophones et francophones, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même si le Nigérien Pinnick a déjà annoncé donc, son soutien à
Patrice Motsepe,
ce n'est pas encore terminé. Et lui, je le croyais candidat, mais comme il n'est pas candidat, il a donc son soutien. Il y aura les alliances et c'est forcément une union sacrée autour d'une candidature comme en 2017 qui va l'emporter. Je ne peux pas dire c'est telle zone contre telle zone, non. Et il faut voir un peu. Les Maghrébins ne sont pas partants.
Justement, et comme ils toujours, partants, comme ils ne sont pas partants.
Et aujourd'hui, leur influence, leur poids va jouer dans
la l'élection, balance, dans l'élection.
Du prochain président de la CAF. Donc, si il penche d'un côté ou de l'autre, ce camp-là va forcément l'emporter.
Amine, Ahmad Ahmad sera confronté à une véritable concurrence face à des adversaires comme Ahmed Yahia et surtout Patrice Motsepe.
On peut dire aussi que la candidature d'Ahmed Yahia est celle de la continuité et de la rupture. Ahmed Yahia est membre du comité exécutif de la CAF depuis 4 ans. Il connaît sur le bout des doigts les dossiers qui ont été traités au sein du comité exécutif. Il a pour lui aussi l'appui de Gianni Infantino, c'est un appui tacite certainement. Le fait qu'il ait bien géré le football mauritanien au cours des dernières années, la Mauritanie aujourd'hui s'est transformée en force émergente du football africain, elle dispose d'un mode de gouvernance cohérent, et puis il y a des infrastructures qui commencent à voir le jour et qui valident le travail qui a été fait dans son propre pays par Ahmed Yahia. Il y a aussi le candidat sud-africain qui a la faveur des pronostics. C'est le propriétaire des Mamelodi Sundowns, c'est un milliardaire, il a l'appui de l'État sud-africain et il veut représenter une rupture. Maintenant, il va falloir voir dans quelle mesure l'un ou l'autre candidat recueilleront les suffrages des sages du football africain.
À Médine, le Nigérien Madjou Pinnick a mieux fait de se ranger derrière Patrice Motsepe.
Oui, Élisée, je pense que le Nigérian Pinnick avait affiché ses ambitions en déclarant le premier qu'il serait candidat, a bien fait quand même de se ranger derrière le milliardaire sud-africain Motsepe. En tout cas, il mise sur un bon candidat car le sud-africain a déjà fait ses preuves avec le club de Pretoria Mamelodi Sundowns. Je pense que Pinnick a été aussi séduit par le projet du milliardaire sud-africain. En tout cas, sachez que Pinnick a bien fait de se ranger derrière le sud-africain qui est un candidat sérieux pour être président de la Confédération africaine de football, Élisée.
Valdo, comme toujours, on pourra une fois encore assister à une bataille entre anglophones et francophones.
Tout à fait, Élisée, ça va une fois de plus se jouer entre les blocs anglophones et francophones. Mais je crains que dans cette configuration, que les présidents sortants soient d'abord et avant tout la cible de ses concurrents. C'est-à-dire qu'un premier objectif soit celui de faire en sorte qu'Ahmad Ahmad perde toutes ses chances à se faire réélire afin de faire de cette élection celle qui devra porter aux commandes de la CAF une autre personne que les présidents sortants. Dans cette course, le Sud-Africain, Patrice Motsepe du bloc anglophone, semble être le candidat qui partirait avec un peu plus des faveurs des pronostics. Mais je suis un peu curieux et très attentif sur la candidature du Sénégalais Senghor, membre du comité exécutif de la CAF, qui arrive en dernier après avoir pris connaissance des autres adversaires dont la candidature pourrait être l'alternative à celle du président sortant.
Amine, on revient vers vous. Les potentiels candidats du Maghreb ont finalement compéti pour le conseil de la FIFA.
Deux candidats du Maghreb et un autre d'Égypte, ils représentent les trois représentants de la zone Afrique du Nord, de la zone UNAF, plus le candidat de la Guinée équatoriale pour ce conseil de la FIFA, dans la zone arabo-hispano-lusophone. Fawzi Lerjaa n'est plus à présenter, il est le deuxième vice-président de la CAF, l'homme fort du football marocain, l'homme qui est censé tirer vers le haut le football africain et sa candidature est somme toute légitime. Le président de la fédération algérienne, Zetchi, est lui l'homme du renouveau du football algérien. On le connaît à travers tout ce qu'il a entrepris avec l'équipe de Paradou, son centre de formation. Et aujourd'hui, sa réussite avec la sélection algérienne. Et puis, il y a Hani Abourida, le candidat égyptien. l'homme en place déjà dans le conseil de la FIFA. Il a été président de la fédération égyptienne, président du comité d'organisation de la dernière CAN. Tous chercheront à recueillir les suffrages des 54 confédérations ou fédérations nationales. Il y a une grosse cote, c'est Zachi. Il y a le favori, c'est Fozil Rja. Et il y a l'homme en place, c'est bien sûr Hani Aboulaïda.
Sporama qui s'achève, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.